Nécroscope par Brian Lumley. 11e partie. C'était la mi-décembre 1976. Après l'un des étés les plus longs et les plus chauds jamais enregistrés, la nature essayait à présent de rétablir l'équilibre. L'hiver promettait déjà d'être rigoureux. Cependant, Boris Dragozani et Max Batou, tout juste arrivés en Angleterre, venaient d'un endroit bien plus froid, et de toute façon, le climat n'entrait pas en ligne de compte dans leur projet. Cela ne les intéressait pas. À tout prendre, le froid leur convenait. Il correspondait parfaitement à l'insensibilité glaciale de leur cœur, à la nature arctique de leur mission, qui était le meurtre, purement et simplement. Durant le vol, pas très confortable dans des sièges raides et durs de l'avion de l'Acroflotte, Dragozani avait ruminé des pensées morbides, certaines courroucées et d'autres effrayées ou au mieux craintives, mais toutes pareillement morbides. Les pensées emplies de colère concernaient Gregor Borowitz, qu'il avait chargé de cette mission, et celles chargées de peur concernant Tibor Ferenczi, la chose dans le sol. À présent, bercé par le bruit des moteurs de l'avion, certes atténué mais envahissant, et par le sifflement de l'air conditionné, il se renversa un peu plus profondément dans son siège et repassa de nouveau dans son esprit les détails de sa dernière visite dans les collines en forme de croix. Il pensa à l'histoire de Tibor, à la nature symbiotique semblable à une lamproie du vrai vampire, et il pensa aux souffrances qu'il avait lui-même endurées, et à sa fuite éperdue avant que l'oubli miséricordieux le délivre à mi-parcours sur la pente boisée. C'était là qu'il avait repris connaissance dans la lumière de l'aube, étendu sous les arbres à proximité du coupe-feu envahi par les broussailles. Et une fois encore, il avait écouté son séjour dans son pays natal et était immédiatement rentré à Moscou pour consulter les meilleurs médecins qu'il pouvait trouver. Cela avait été une pure perte de temps, apparemment il était en parfaite santé. Les radiographies n'avaient rien montré, les analyses de sang et d'urine étaient parfaitement normales, son pouls et sa respiration étaient exactement ce qu'ils devaient être. Dragozani ressentait-il une quelconque indisposition, souffrait-il de migraine ou d'asthme? Non. Alors peut-être était-ce à cause de l'altitude, et que ses sinus le faisaient souffrir? Non. Était-il surmené? Certainement pas. Lui-même avait-il eu l'idée de l'origine de ses troubles? Non plus. Enfin, si. Mais il ne supportait pas d'y penser, en aucun cas, il ne pouvait en parler. Le docteur lui avait prescrit des analgésiques, si jamais il y avait une rechute, et c'était à peu près tout. Dragozani aurait dû être satisfait, mais il ne l'était pas, loin de là. Il avait essayé de communiquer avec Tibor à longue distance, le vieux démon connaissait peut-être la réponse, même un mensonge pouvait convenir à un début d'indice. Mais non, rien ne s'était passé. Si Tibor l'entendait, il ne répondait pas. Il avait examiné pour la 100e fois les faits qui avaient précédé sa douleur terrifiante et provoqué sa fuite, puis sa perte de connaissance. Quelque chose qui se trouvait au-dessus de lui avait éclaboussé sa nuque en tombant. La pluie? Non. C'était une nuit superbe, le temps était tout à fait sec. Une feuille? Un morceau d'écorce? Non. Il avait eu une sensation d'humidité. Une fiente d'oiseau, alors? Non, car sa main n'avait pas été salie. Quelque chose était tombé sur le haut de sa colonne vertébrale et quelques instants plus tard, sa colonne et son cerveau avaient été empoignés et serrés par quelque chose d'inconnu. Mais quoi? Dragozani croyait le savoir. Néanmoins, il n'osait pas y réfléchir vraiment. À l'évidence, cela avait envahi son sommeil, le plongeant dans des nuits sans fin remplies de mauvais rêves. Des cauchemars récurrents dont il ne se souvenait jamais au réveil, mais qui étaient terrifiants, il le savait. Tout cela était devenu une sorte d'obsession chez lui, et à certains moments il ne pouvait penser à rien d'autre. Cela ne concernait pas uniquement ce qui s'était passé, mais aussi ce que le vampire lui avait dit pendant que cela s'était produit. Il pensait aussi à certains changements qu'il avait observés chez lui cette fameuse nuit. Des changements physiologiques, des changements inexplicables, ou s'il y avait une explication, Dragozani n'était en tout cas pas prêt à y faire face. « Dragozani, mon garçon, lui avait dit Borowitz moins d'une semaine auparavant. « Tu vieillis prématurément. Est-ce que je te fais travailler trop dur ou bien peut-être que je ne te fais pas travailler assez ?»« Oui, c'est probablement cela. Tu n'es pas assez occupé. »« Quand remonte la dernière fois où tu as souillé de sang tes doigts si délicats, hein ?»« C'était il y a un mois, non ?»« C'est un genre double français. »« Mais regarde-toi, tes tempes se dégarnissent et tes gencives se rétractent. »« Et avec ton teint pâle et tes joues creuses, eh bien on dirait presque que tu fais de l'anémie. » Cette petite excursion en Angleterre te fera peut-être du bien. » Borowitz avait cherché à le mettre en colère. Dragozani le savait, mais pour une fois, il n'avait pas osé mordre l'hameçon. Cela n'aurait servi qu'à attirer encore plus l'attention sur lui, et il n'y tenait pas vraiment. Non, car en fait, Borowitz avait bien plus raison qu'il ne le supposait vraisemblablement. Ses tempes semblaient se dégarnir, en effet. Pourtant, ce n'était pas vrai. Une petite tache de vin sur son cuir chevelu, près de la naissance des cheveux, le lui prouvait. Les minuscules distances qui les séparaient n'avaient pas changé depuis au moins 10 ans, donc il n'était pas en train de devenir chauve. Le changement résidait dans la forme de son crâne lui-même, lequel, en admettant que ce soit possible, s'était rallongé à l'arrière. Pour les gencives, c'était la même chose, elles ne se rétractaient pas, comme Borowitz l'avait suggéré, mais c'était ses dents qui devenaient plus longues, particulièrement les incisives, en haut et en bas. Quant à l'anémie, c'était parfaitement ridicule. Il était peut-être pâle, mais pas affaibli. Au contraire, il se sentait plus vigoureux. Il débordait de vitalité comme jamais auparavant. Physiquement, en tout cas. Sa pâleur résultait probablement d'une photophobie qui s'était développée très vite, car à présent, il fuyait littéralement la lumière du jour. Et même lorsque celle-ci était atténuée, il ne sortait jamais sans porter de lunettes teintées. Physiquement en forme, oui. Mais ses rêves, ses peurs, son nom, ses obsessions, ses névroses, en fait, il était tout simplement névrosé. Cela bouleversait Dragozani d'être obligé de l'admettre, ne serait-ce qu'à lui-même. Une chose au moins était certaine, quelle que soit l'issue de cette mission en Angleterre, une fois qu'elle sera terminée, Dragozani était bien décidé à retourner en Roumanie dès que cela lui sera possible. Il y avait des choses, des questions qui devaient être résolues, et le plus tôt serait le mieux. Tibor Ferenczi contrôlait la situation depuis bien trop longtemps. À côté de Dragozani, dans l'un des sièges étriqués de la rangée de trois dont il avait relevé l'un des accoudoirs de séparation, compte tenu de sa corpulence, Max Batou eut un petit rire.
« Camarade Dragozani, c'est moi qui suis censé avoir le mauvais œil. Peut-être avez-vous oublié nos rôles respectifs. »«
Hein ? Que voulez-vous dire ? » ?»«
J'ignore à quoi vous pensiez il y a un instant, mon ami. » Et je suis certain que quelqu'un en fera les frais. L'expression sur votre visage était tout à fait sauvage.
Ah.
Eh bien, mes pensées m'appartiennent, Max, et ne vous regardent pas.
Vous êtes plutôt glacial, camarade.
Nous le sommes tous les deux, je suppose. Pourtant, je perçois votre froideur. Elle s'infiltre en moi en ce moment. Est-ce que je vous aurais froissé?
Seulement par votre bavardage.
C'est bien possible, mais nous devons bavarder. Vous êtes censé me mettre au courant, m'informer des détails que Gregor Borowitz a laissés en suspens. Ce serait une bonne idée que vous le fassiez maintenant. Nous sommes seuls ici, même le KGB n'a pas encore posé de micro dans les avions de l'aéroflotte. Qui plus est, il nous reste une heure seulement avant d'arriver à Londres. À l'ambassade, une conversation de ce genre pourrait se révéler difficile.
Je suppose que vous avez raison. Bon, entendu. Je vais vous exposer toute l'affaire, il est peut-être préférable que je vous fasse un topo complet.
Borowitz a eu l'idée du service E il y a 25 ans environ. À cette époque, un important groupe russe de soi-disant scientifiques marginaux commençait à s'intéresser de très près à la parapsychologie, encore largement désapprouvée en URSS. Borowitz s'y intéressa à son tour. L'ESP l'avait toujours intrigué, malgré sa formation de militaire très terre-à-terre et d'autres préjugés classiques. Il était fasciné et attiré par les personnes aux dons étranges. En fait, lui-même était un dénicheur, mais il ne s'en était jamais rendu compte. Quand il finit par réaliser qu'il avait ce don particulier, il demanda aussitôt à prendre la direction de notre école d'espionnage. À l'origine, c'était uniquement une école, sans aucune application sur le terrain. Les hommes du KGB n'étaient pas intéressés, ils ne croyaient qu'aux muscles et aux gilets pare-balles. L'ESP était trop ésotérique pour eux. Bref, comme sa carrière militaire touchait à sa fin, et comme il avait de bonnes relations, sans parler de son propre don qui était loin d'être négligeable, il obtint le poste. Quelques années plus tard, il tomba sur un autre dénicheur, mais dans des circonstances très particulières. Une télépathe, l'une des rares jeunes filles qui faisait partie de l'équipe de Borowitz, dont le don commençait tout juste à s'épanouir, fut brutalement assassinée. Son petit ami, un certain Viktor Chouchkin, fut accusé de crime. Pour sa défense, il affirma qu'il avait cru que la jeune fille était possédée par des démons. Il les percevait en elle. Bien sûr, cette affaire intéressa énormément Borowitz, et il fit passer des tests à Chouchkine et se rendit compte que c'était un dénicheur. Qui plus est, il découvrit aussi que l'aura des ESP des personnes de pouvoir médiumnique perturbait considérablement Chouchkine, le déstabilisait et le poussait à commettre des homicides, dirigés habituellement contre des ESPR, hommes ou femmes. D'un côté, Chouchkine était attiré par les ESPR, et de l'autre, il était poussé à les détruire. Borowitz intervint, évita à Chouchkine d'être envoyé dans les mines de sel, de la même façon qu'il est intervenu en votre faveur, Max, et il le prit sous son aile. Il pensait être à même de débarrasser cet homme de ses pulsions meurtrières tout en préservant son don de dénicheur. Dans le cas de Chouchkin, cependant, le lavage de cerveau ne donna aucun résultat. En fait, cela ne fit qu'aggraver le problème. Mais Gregor Borowitz déteste le gaspillage. Il chercha donc une façon d'utiliser l'agressivité de Chouchkin. À cette époque, les Américains s'intéressaient eux aussi beaucoup à l'ESP en tant qu'arme. Plus récemment, ils se sont penchés de nouveau sur la question, mais pas avec les mêmes ampleurs que nous. En Angleterre, toutefois, une équipe ESP rudimentaire existait déjà, et les Britanniques étaient bien plus enclins à entreprendre une étude approfondie et à exploiter le potentiel du paranormal. C'est pourquoi Chouchkine fit un long stage à l'école d'espionnage de Moscou et fut finalement lâché sur les Britanniques. Sa couverture était celle d'un transfuge. Sa mission consistait à tuer des ESPers anglais. C'était l'idée de départ. Il devait les trouver, rendre compte de leurs activités et quand le stress psychique devenait trop fort pour lui, les tuer lorsque il le jugeait nécessaire. Mais après seulement quelques mois passés en Angleterre, Victor Chouchkine passa réellement à l'ennemi. En rejoignant les Anglais ? Non. En choisissant leur pays, leur système politique, en optant pour la sécurité. De toute façon, Chouchkine se fichait complètement de notre mère Russie et à présent, il avait un pays d'adoption, presque une nouvelle identité. Il n'allait pas commettre la même erreur deux fois, vous comprenez ? En Russie, il avait failli être condamné à la prison à vie pour meurtre. Allait-il faire la même chose en Angleterre ? Il pouvait y mener une vie normale, prendre un nouveau départ. C'était un linguiste à l'origine. Il avait des diplômes, d'études supérieures en russe, en allemand, en anglais, et plus que des notions de base dans une demi-douzaine d'autres langues. Non, il n'était pas passé à l'ennemi. Il a déserté l'URSS. Il s'est enfui et s'est sauvé vers la liberté. On dirait presque que vous approuvez le système anglais. Ne vous inquiétez pas pour ma loyauté, Max. Vous ne trouverez pas d'homme plus loyal que moi. Envers la Roumanie, envers la Valachie, pensa-t-il en secret. Ma foi, c'est bon à savoir. J'aimerais bien pouvoir dire la même chose, mais je suis un Mongol, et ma loyauté est différente. En fait, je suis loyal uniquement envers Max Batou. Alors vous devez énormément ressembler à Chouchkine. J'imagine que c'est ce qu'il a ressenti. Bref, au fil des mois, ses rapports se firent de plus en plus rares et il finit par s'évanouir dans la nature. Cela mit Borowitz dans une situation difficile, mais il ne pouvait rien faire à ce sujet. Chouchkine étant un transfuge, il avait obtenu l'asile politique. Borowitz ne pouvait guère demander qu'on le renvoie en Russie. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était garder un œil sur lui, voir ce qu'il avait l'intention de faire. Il craignait qu'il rejoigne les ESPers anglais. Pas vraiment, non. Chouchkine est un psychotique. Vous vous rappelez ? En tout cas, Borowitz ne prit aucun risque et il finit par retrouver sa trace. Le plan de Chouchkine était simple. Il s'était trouvé un travail à Édimbourg, avait acheté une petite maison de pêcheur dans un village appelé Dunbar, et il fit une demande officielle pour obtenir la citoyenneté britannique. Il vivait à l'écart et se préparait à mener une vie normale, ou du moins, il a essayé. Cela n'a pas marché ? Pendant quelque temps, si. Et puis il a épousé une jeune fille d'origine russe. Elle était médium authentique. Et naturellement, son don a agi sur lui comme un aimant. Peut-être essaya-t-il de lui résister, mais sans résultat. Il l'a épousée et il l'a tuée. Du moins, Gregor Borowitz voit les choses de cette façon. Après cela, plus rien. Il s'en est tiré à bon compte. Le coroner a conclu à une mort accidentelle, par noyade. Borowitz en sait plus que moi sur cette affaire. De toute façon, c'est sans importance. Mais Chouchkine a hérité de l'argent et de la maison de sa femme. Et il vit toujours là-bas. Et maintenant, nous sommes chargés de le tuer. Vous pouvez me dire pourquoi ? S'il avait simplement continué à garder un profil bas et de nous foutre la paix, cela aurait été parfait. Alors Borowitz aurait fini par le retrouver, mais pas dans l'immédiat. Toutefois, la chance a abandonné Chouchkine. Il est à court d'argent, complètement dans la dèche. Cela a été le sort de beaucoup d'autres avant lui. Et c'est pourquoi, après toutes ces années, il s'est finalement improvisé maître chanteur. Il menace Borowitz, le service E et toute l'organisation. Un seul homme peut-il représenter une si grande menace ? L'équivalent anglais de notre service est opérationnel, à présent. Jusqu'à quel point nous l'ignorons, mais ils sont peut-être meilleurs que nous. Nous savons très peu de choses sur eux, ce qui est en soi un très mauvais signe. Il se pourrait très bien qu'ils soient suffisamment bons pour se protéger parfaitement, pour se doter d'une sécurité ESP à 100%. Et si cela devait être le cas, alors que savent-ils au juste sur nous, c'est ça ? Exactement. Ils savent peut-être que nous sommes tous deux à bord de cet avion en ce moment et connaissent le but de notre mission. À Dieu ne plaise. Je ne crois en aucun dieu, seulement au diable. Ainsi, le camarade général craint que si Chouchkine n'est pas réduit au silence, il finisse par parler aux Anglais, tout compte fait. C'est ce dont l'a menacé Chouchkine, oui. Il veut de l'argent, sinon il dira au service E britannique tout ce qu'il sait. Notez bien, cela ne doit pas représenter grand-chose après tout ce temps. Néanmoins, même la divulgation de quelques petites informations sur notre service top secret serait déjà de trop au goût de Gregor Borowitz.
Mais si Chouchkin parlait, il se trahirait par la même occasion, non?
Ne serait-ce pas reconnaître que l'on avait envoyé en Angleterre en tant qu'agent ESP de l'URSS?
Il n'a pas à se trahir. Une lettre peut parfaitement rester anonyme, Max. Tout comme un appel téléphonique. Et bien que 20 années se soient écoulées, il sait encore des choses que Borowitz tient à garder secrètes. Deux choses en particulier qui seraient d'une valeur inestimable pour les ESP anglais. La première, c'est l'emplacement du château Broditsy. La deuxième, c'est le fait que le camarade général Gregor Borowitz en personne est le directeur de l'ESP Yonage russe. Dès la menace que représente Chouchkine, et c'est pour cette raison qu'il doit mourir.
Et pourtant, sa mort n'est pas notre objectif principal.
Non. Notre principal objectif est la mort de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'infiniment plus important. Il s'agit de Sir Kenan Gormley, le directeur de leurs ESP. Nous devons le tuer et apprendre ce qu'il sait. Tout ce qu'il sait. Voilà notre principal objectif. Borowitz veut la mort de ces deux hommes et aussi connaître leurs secrets. Vous tuerez Gormley à votre manière très spéciale et je l'examinerai à la mienne. Avant cela, nous aurons déjà tué Victor Chouchkine, qui aura été examiné également. En fait, il ne devrait pas poser trop de problèmes. Sa maison est isolée, loin de tout, et nous ferons ça là-bas.
Et vous pouvez vraiment leur arracher leurs secrets? Après leur mort, je veux dire?
Oui, je le peux vraiment. Plus sûrement qu'un tortionnaire qui les interrogerait s'ils étaient encore en vie. Je volerai leurs pensées, les plus secrètes, en puisant dans leur sang, leur moelle, leurs os froids et solitaires.
Une hôtesse de l'air boulotte apparut au fond de l'allée centrale et prévint les passagers qu'il était temps de boucler leurs ceintures. Les passagers s'exécutèrent comme des robots.
Quelles sont vos limites? Sans aucune curiosité morbide, bien sûr.
Mes limites? Que voulez-vous dire?
Par exemple, si un homme est mort depuis une semaine,
cela ne fait aucune différence.
Et s'il est mort depuis une centaine d'années?
Une momie desséchée, vous voulez dire? Borowitz s'était posé la même question. Nous avons fait des essais. Cela revenait au même pour moi. Les morts ne peuvent pas faire taire leurs secrets à un nécromancien.
Mais un cadavre en décomposition, disons quelqu'un qui est mort depuis un mois ou deux, ce doit être horrible.
Ça l'est. Mais je m'y suis habitué. La pourriture me préoccupe moins que le risque. Les morts grouillent de maladies, vous savez. Je dois être très prudent. Ce n'est pas un travail très sain.
Pouf !
Fit Batou avec dégoût. Dragozani vit qu'il était parcouru d'un léger frisson. Les lumières de Londres brillaient au loin sur la courbe de l'horizon nocturne. La ville était d'une lueur rouge brumeuse au-delà des petits hublots.
Et vous? Votre don a-t-il ses limites, Max?
Il comporte également ses dangers. Il nécessite beaucoup d'énergie. Il consume mes forces. Il m'affaiblit. Et comme vous le savez, il est efficace uniquement sur des personnes fragiles ou infirmes. Il est censé avoir un léger autre handicap, mais cela fait partie de la légende, et je n'ai pas l'intention de vérifier si c'est vrai.
Oh?
Oui. Dans mon pays, on raconte l'histoire d'un homme qui avait le mauvais œil. C'était une très vieille histoire qui remonte à plus de 1000 ans. Cet homme était très mauvais et utilisait son pouvoir pour terroriser tout le monde dans la région. Il arrivait dans les villages avec ses bandits, violait, pillait, puis repartait, indemne. Et personne n'osait lever la main sur lui. Et dans un village vivait un vieil homme qui prétendait savoir comment se débarrasser de lui. Quand on signala que les pillards venaient dans cette direction, les villageois prirent tous les cadavres, les menhirent de lances et les placèrent sur les murs. Les pillards arrivèrent et dans le crépuscule, leur chef vit que le village était défendu. Alors il jeta le mauvais œil au guetteur posté sur les murs. Mais bien sûr, les morts ne peuvent pas mourir deux fois. Le sort rebondit et le frappa en retour. Il était complètement ratatiné, pas plus gros qu'un cochonnet rôti.
Et la morale ?
N'est-ce pas évident? On ne doit jamais maudire les morts, je suppose, car ils n'ont rien à perdre. Dans tout différent, ils finissent toujours par gagner.
Dragozani pensa à Tibor Ferengzi. Qu'en est-il des morts vivants? Se demanda-t-il. Est-ce qu'ils gagnent toujours, eux aussi? Si c'est le cas, il serait temps que quelqu'un change les règles. Ils furent accueillis et accompagnés à la douane par un homme de l'ambassade, et leurs bagages apportés comme par magie jusqu'à une Mercedes noire munie de plaques diplomatiques. En plus de ce garde du corps au regard froid, il y avait un chauffeur en uniforme qui restait silencieux. Durant le trajet vers l'ambassade, leur garde du corps était assis sur le siège du passager à l'avant, à demi tourné vers eux, un bras posé négligemment sur le dossier du siège du chauffeur. Il parla de choses et d'autres d'une façon mécanique et glaciale, en s'efforçant de prendre un air intéressé et amical. Mais Dragozani ne se laissa pas prendre à son jeu une seule seconde.
Vos premières visites à Londres, camarade, vous trouverez que c'est une ville intéressante, j'en suis sûr. Décadente, naturellement, et remplie d'imbéciles, et néanmoins intéressante. Je n'ai pas eu le temps de m'informer de la raison de votre venue ici. Combien de temps comptez-vous rester?
Jusqu'à ce que nous repartions.
Ah, très bien. Vous devez m'excuser, camarade. Et pour certains d'entre nous, la curiosité est, comment dire, une manière de vivre. Vous comprenez?
Oui, je comprends.
Vous êtes du KGB.
Le visage mince de l'homme devint glacial en un instant.
Nous n'utilisons pas beaucoup ce terme à l'extérieur de l'ambassade.
Quel terme utilisez-vous alors? Enfoiré?
Quoi?
Le visage du garde du corps devint blême.
Mon ami et moi sommes ici pour régler une affaire qui ne vous regarde pas, vous et les autres. Pour ce faire, nous avons reçu la plus haute accréditation. Je vais être très clair. L'accréditation suprême. Toute ingérence serait néfaste pour vous. Si nous avons besoin de votre aide, nous vous le ferons savoir. Autrement, vous nous laissez tranquilles et vous ne nous importunez pas.
L'homme pinça les lèvres et poussa un long soupir.
Habituellement, les gens ne me parlent pas de cette façon.
Bien sûr, si vous persistez à nous gêner dans notre travail, je peux toujours vous casser un bras. Cela devrait vous tenir à l'écart pendant 2 ou 3 semaines, au moins.
Vous me menacez?
Non. Je vous fais une promesse.
Mais Dragozani savait qu'il n'arriverait à rien. Cet homme était un de ces automates typiques du KGB. Le nécromancien soupira et dit
« Écoutez, si on vous a chargé de nous surveiller, je suis désolé pour vous. Vous ne pouvez pas faire votre travail. Qui plus est, c'est dangereux. C'est tout ce que je vous dirai et rien de plus. Nous sommes ici pour tester une arme secrète. Maintenant, ne posez plus de questions. »
Une arme secrète. Ah, je vois. Quelle arme?
Dragozani eut un sourire sardonique. Il l'avait pourtant prévenu, cet imbécile.
Max, une petite démonstration, peut-être.
Peu après, ils arrivèrent à l'ambassade. Dragozani et Batou descendirent de la voiture et sortirent leur bagage du coffre. Ils portèrent eux-mêmes leurs valises. Le chauffeur s'occupait de leur garde du corps. La dernière fois qu'ils le virent, ils marchaient en titubant, soutenus par le bras du chauffeur. Il regarda dans leur direction une seule fois, fixa Batou d'un air terrifié, puis disparut d'un pas mal assuré à l'intérieur du bâtiment imposant et lugubre. Et ce fut la dernière fois. Après cela, plus personne ne les importuna. En ce deuxième mercredi, après le nouvel an de l'année 1977, Victor Chouchkine éprouvait ce même sentiment d'un destin imminent qui l'avait étreint pour la première fois plus de 15 jours auparavant. Une dépression psychique accablante qui s'était à peine atténuée avec l'arrivée de la 4e lettre recommandée mensuelle de Grégor Borowitz, qui contenait 1000 livres en grosses coupures. En fait, cela inquiétait Chouchkine que Borowitz ait cédé si facilement qu'il ne l'ait pas menacé à son tour. La journée avait été particulièrement maussade. Le ciel était sombre, il allait certainement reneiger. La rivière était gelée et recouverte d'une épaisse couche de neige grise. La grande maison était froide et semblait envahie de courants d'air glacé qui suivaient Chouchkine partout. Et pour la première fois depuis aussi loin que remontaient ses souvenirs, ou du moins était-ce la première fois qu'il le remarquait, un calme étrange, inquiétant, régnait dans toute la maison. Les sons semblaient étouffés comme prisonniers d'une épaisse couche de neige, bien qu'il n'ait que peu neigé jusqu'à présent. Le tic-tac d'une vieille horloge résonnait d'une manière pesante, triste. Même les lattes des planchers gauchis semblaient craquer un peu moins joyeusement, et tout cela avait mis les nerfs de Chouchkine à cran. C'était comme si la maison retenait son souffle et attendait quelque chose. Ce quelque chose survint à 14h30, juste au moment où Chouchkine se versait un verre de vodka glacé et s'asseyait dans son cabinet de travail devant un radiateur électrique, regardant d'un air morne par la fenêtre sale tachetée de mouches, vers un jardin gelé et changé en un tapis de cristal blanc. Soudain, la sonnerie stridente de son téléphone sonna. Le cœur battant, il posa son verre qu'il avait failli renverser, s'empara du combiné et dit
« Chouchkine, j'écoute. Beau-père, Harry à l'appareil. Je suis à Édimbourg chez des amis. Comment allez-vous ?»
Chouchkine ravala la colère qui était montée en lui d'un coup et qui bouillonnait à la surface. C'était donc ça. Ce maudit rejeton d'une esperte était là, tout près, envoyait son aura psychique pour écraser son esprit sensitif. Il montra les dents, lança un regard furieux au téléphone dans sa main et contint son envie de maudire son beau-fils et de hurler.
« Harry, c'est toi ?»« À Édimbourg, dis-tu. C'est très gentil à toi de m'appeler. »«
Espèce de petit salopard, » pensa-t-il. « Ton aura de mutant me fait mal. »
Mais vous semblez en pleine forme. La dernière fois que je vous ai vu, vous paraissiez si... Oui, je sais. Je n'allais pas très bien, Harry. Mais je suis rétabli, maintenant. Tu désirais quelque chose?
Je pourrais manger ton cœur, espèce de petit salaud pervers, pensa-t-il encore une fois.
Eh bien, oui, je voulais savoir si je pouvais passer vous voir. Nous pourrions peut-être parler de ma mère. Et puis, j'ai apporté mes patins. Si la rivière est gelée, je pourrais aller patiner. Je suis ici pour quelques jours encore, vous comprenez? Et je... Non!
Aboya Chouchkine. Il se ressaisit aussitôt. Pourquoi ne pas en finir avec tout ça? Pourquoi ne pas chasser cette ombre du passé une bonne fois pour toutes? Quoique sache ou soupçonne Keof, quelle que soit la manière dont il avait trouvé la bague que Chouchkine croyait avoir perdue dans la rivière, et quel que soit le lien psychique qui existait entre ce garçon et sa mère, et qui apparemment les unissait toujours, pourquoi ne pas en finir sur le champ? Le bon sens n'avait aucune chance contre l'envie de tuer qui submergeait Chouchkine à présent.
Beau-père, je voulais seulement dire, Harry, mes nerfs ne sont pas encore tout à fait remis, je le crains. Le fait de vivre ici tout seul, tu sais, je n'ai pas l'habitude d'avoir de la compagnie. Bien sûr, j'aimerais beaucoup te voir, et la rivière est parfaite en ce moment pour patiner, mais vraiment... Je ne supporterai pas que ma maison soit envahie par une bande de jeunes gens, Harry. Oh, non, beau-père. Je n'avais pas l'intention d'amener quelqu'un avec moi. Je ne songerai pas à vous imposer cela. Allons, mes amis ne savent même pas que j'ai de la famille ici. Non, j'aimerais surtout revoir la maison et aller sur la rivière. J'aimerais patiner là où ma mère avait l'habitude de patiner, c'est tout.
Encore, pensa Chouchkine. Ce petit salopard savait quelque chose, ou au moins se doutait de quelque chose, c'était certain. Ainsi, il voulait patiner, hein, sur la rivière comme sa mère. Un sourire mauvais apparut sur le visage de Chouchkine.
Ma foi, dans ce cas, quand peux-tu venir? Disons dans 2 heures? Un temps d'eau, entre 16h30 et 17h. Je t'attends avec impatience, Harry.
Et il raccrocha avant qu'un grognement de haine tout à fait animal s'échappe de sa bouche et trahisse ses véritables sentiments. Oh, comme je vais attendre ce moment avec délectation. Harry Keof n'était pas aussi loin qu'Édimbourg. En fait, il était dans le hall de l'hôtel où il avait passé quelques nuits, à Bonnyrigg même. Après avoir téléphoné à Chouchkine, il mit son pardessus et sortit prendre sa voiture, une vieille Maurice délabrée qu'il avait achetée à bas prix spécialement pour ce voyage. Il avait eu son permis de conduire du premier coup, ou du moins un ancien moniteur de conduite reposant dans le cimetière de Seaton Carew l'avait obtenu à sa place. Il roula sur des routes verglacées jusqu'au sommet d'une colline à moins de 500 mètres de la vieille maison où il gara la voiture et descendit. Il n'y avait personne dans les environs. Un vent piquant soufflait et l'endroit était glacial. En frissonnant, Harry prit ses jumelles et se dirigea vers un bosquet d'arbres dénudés qui se dressait vers le ciel. Il se posta derrière le tronc de l'un d'eux, braqua les jumelles vers la maison et attendit. Pas plus d'une minute ou deux. Chouchkine sortit par la porte-fenêtre de son cabinet de travail et traversa rapidement le jardin de derrière pour franchir finalement une porte dans le mur qui faisait face à la rivière. Il tenait une pioche à la main. Harry inspira profondément puis relâcha sa respiration, son souffle formant des volutes blanches dans l'air glacé. Chouchkine se fraya un passage dans les arbustes fragiles et les ronces jusqu'au bord de la rivière. Il descendit précautionneusement sur la glace, éprouva sa solidité, fit des bonds sur place. Puis il se retourna et jeta un regard alentour. L'endroit était tout à fait désert. Il s'avança vers le centre de l'étendue de glace d'un gris luisant et fit des bonds de nouveau, l'air encore une fois satisfait. À présent, les yeux de Harry étaient rivés sur la scène, un tableau monochrome qui lui semblait avoir presque déjà vu. C'était ici que Chouchkine avait déjà effectué ces mêmes gestes. Il en avait la certitude. Car la silhouette prise au piège et agrandie dans les lentilles de ses jumelles s'accroupit, prit sa pioche et lui fit décrire un large cercle traçant une limite, une ligne de démarcation dans la croûte de la glace. Puis il se déplaça à grands pas tout autour du cercle, en entaillant la glace à intervalles réguliers avec toute la force et l'emportement d'un aliéné, jusqu'à ce que de l'eau jaillisse à chaque coup de pioche. En quelques minutes, un grand disque de glace de 3 mètres environ de diamètre flottait librement dans sa propre mare, puis il apporta la touche finale. Chouchkine s'arrêta de nouveau pour jeter un regard autour de lui. Puis il fit le tour du périmètre du cercle en poussant avec ses pieds les débris de glace dans le trou. L'eau allait geler, de nouveau, bien sûr. Mais la glace ne serait pas sûre pendant plusieurs heures. Certainement pas avant demain matin. Chouchkine avait mis son piège en place, mais il ignorait que la victime désignée l'avait observé. Harry avait du mal à maîtriser les frissons, les tremblements qui agitaient tout son corps, et qui n'avaient pas grand-chose à voir, sinon rien, avec la température ambiante. Non, ils étaient plutôt dus à l'état mental de cette silhouette voûtée là-bas sur la glace. Les jumelles n'étaient pas assez puissantes pour lui permettre de voir son beau-père de près, mais Harry était néanmoins certain d'avoir vu son visage se convulser en un rictus hideux pendant qu'il hachait la glace. C'était le visage d'un démon qui, pour une raison quelconque, convoitait la vie de Harry, comme autrefois il l'avait convoité et pris celle de sa mère. Harry voulait savoir pourquoi il n'aurait de cesse de chercher la vérité, et il n'y avait qu'une seule façon de la découvrir. Se sentant physiquement et mentalement là, et sachant cependant que son travail n'était pas encore terminé, Victor Chouchkine regagna la maison. Une fois dans la cour, entouré d'un mur, il traîna sa pioche derrière lui sur les dalles gelées et laissa le manche tomber de ses doigts avant de franchir la porte-fenêtre et d'entrer dans son cabinet de travail. La tête baissée et les bras ballants le long du corps, il fit deux autres pas dans la pièce et resta cloué sur place. « Quoi ? Geoff est déjà arrivé ? » pensa-t-il. Toute la maison semblait envahie de forces étranges. Elle empestait l'aura ESP. Son atmosphère même semblait vibrer d'énergie autre. Instantanément sur ses gardes, Chouchkine perçut alors un mouvement. La porte-fenêtre se ferma en claquant derrière lui. Il fit volte-face, regarda et en resta bouche bée. Deux hommes se tenaient devant lui, dans son cabinet de travail, où il l'avait attendu. Et l'un d'eux avait un pistolet braqué sur son cœur. Chouchkine reconnut le pistolet, c'était l'arme utilisée par les services secrets russes, ainsi que l'expression froide et dépourvue d'émotion des deux hommes. Et il sentit le destin refermer son poing sur lui. Mais en un sens, la situation n'était pas si inattendue. Il s'était dit qu'il recevrait peut-être une visite de ce genre, un jour. Mais que cela arrive maintenant, voilà qu'il ne pouvait pas plus mal tomber. « Asseyez-vous, camarade, » dit le plus grand des deux hommes d'une voix aussi rêche qu'une lime, qui mit les nerfs de Chouchkine à vif. Max Batou poussa une chaise vers lui et Chouchkine faillit s'effondrer dessus. Batou vint se mettre derrière lui, tandis que Dragozani lui faisait face. L'aura ESP submergeait Chouchkine à présent, comme si son esprit nageait dans de la bile. Ces deux-là provenaient du château Bronitsy, cela ne faisait aucun doute. Le visage du maître chanteur était dévasté, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites noires. Regardant par-dessus la tête de Chouchkine vers Dragozani, le visage rond de Batou arbora finalement un large sourire. « Camarade Dragozani, et dire que jusqu'à maintenant j'avais toujours pensé que vous aviez mauvaise mine. »
« Des ESP. » Des hommes de Borovitz. Que voulez-vous de moi ?
Il a toutes les raisons d'avoir mauvaise mine, Max. Un traître, un maître chanteur, et probablement un assassin. Chouchkine donna l'impression de vouloir se lever d'un bond, mais Batou posa ses mains lourdes et épaisses sur ses épaules.
Je vous ai demandé ce que vous voulez de moi.
Votre vie. Seulement votre vie.
Chouchkine sentit Max Batou s'écarter prudemment derrière lui, et il comprit qu'ils allaient le tuer.
« Attendez, vous commettez une erreur. Borovitz ne vous remerciera pas pour ça. Je sais beaucoup de choses sur le service anglais. J'ai transmis certaines informations à Borovitz morceau par morceau, mais il ignore encore beaucoup d'autres choses. Qui plus est, je travaille pour vous à ma façon. Écoutez, je suis sur un coup en ce moment. Oui, juste maintenant. »
« Quel coup ?»
Il n'avait pas eu l'intention d'abattre Chouchkine, simplement de lui faire peur. Le fait que Max soit écarté de sa ligne de tir n'était en fait qu'un réflexe naturel. Tuer quelqu'un par balle était salissant et ne favorisait pas la nécromancie. Ce que Dragozani avait prévu pour la mort de Chouchkine était bien plus intéressant. Quand il aurait obtenu tout ce qu'il pouvait de cette façon, grâce à un simple interrogatoire, ils emmèneraient Chouchkine dans la salle de bain et le ligoteraient. Il le plongerait dans la baignoire à moitié remplie d'eau froide, et Dragozani lui tailladerait les poignets avec l'un de ses scalpels. Tandis qu'il serait étendu dans l'eau à se vider de son sang comme la vie le quitterait, Dragozani l'interrogerait de nouveau. Le marché serait le suivant. Si Chouchkine disait tout, il banderait ses blessures et le relâcherait. Dragozani lui montrerait les bandages, les pansements chirurgicaux.
Mais bien sûr, Chouchkine n'aurait pas beaucoup de temps pour répondre. Tandis que son sang foncerait l'eau, Chouchkine se retrouverait bientôt plongé dans une soupe froide et écarlate. Ce serait un avertissement, la promesse que s'ils continuaient à leur créer des ennuis, alors Dragozani et Batou ou d'autres comme eux reviendraient pour terminer le travail. C'est ce qu'ils diraient à Chouchkine, mais bien sûr, le travail serait terminé, séance tenante. Mais même en passant par là, il pouvait très bien taire quelque chose qu'il ne jugeait peut-être pas important, quelque chose qu'il avait oublié, qui était peut-être trop accablant pour qu'il le dise. Comme par exemple le fait qu'il travaillait déjà pour les Britanniques. De toute façon, quoi qu'il dise, cela ne changerait rien. Quand il serait mort, il nettoierait son corps exsangue avec de l'eau fraîche, le sortirait de la baignoire, et alors, Dragozani poursuivrait l'interrogatoire. Le nécromancien écarta son arme du front de Chouchkine et s'assit en face de lui. « J'attends. Quel coup ?» Chouchkine avala sa salive, tenta de refouler la peur que lui inspiraient ces hommes et sa haine pour leur don ESP. Elle était là, elle ne partirait pas, mais il devait essayer de l'ignorer. Sa vie ne tenait qu'à un fil et il le savait. Il devait mettre de l'ordre dans ses pensées, mentir comme il n'avait jamais encore menti. Une partie de ce qu'il dirait serait la vérité de toute façon, et de cela au moins, il pouvait parler avec une conviction absolue. « Vous savez que je suis un délicheur. »«
Bien sûr. C'est pour cette raison que Borovitz vous avait envoyé ici, pour trouver les ESPR britanniques et les tuer. Apparemment, votre mission n'a pas été couronnée de succès. »«
Quand je suis entré ici, il y a un instant, dès que je me suis avancé dans cette pièce, j'ai su que vous étiez là. » Je sentais presque le goût de votre présence sur ma langue. Vous êtes des ESPR très puissants, tous les deux, particulièrement vous.
Il jeta un regard furibond à Dragozani.
Il y a un don monstrueux, terrifiant en vous, et il me fait mal.
Oui, Borovitz me l'avait dit. Mais nous sommes au courant pour les dénicheurs, Chouchkine. Alors arrêtez de chercher à gagner du temps et venez-en au fait.
« Je ne cherche pas à gagner du temps. J'essaie de vous parler de l'homme que je vais tuer aujourd'hui. »
Dragozani et Batou échangèrent un regard. Batou se pencha au-dessus de la tête de Chouchkine et demanda.
« Vous aviez l'intention de tuer un ESPR anglais. Pourquoi ?
Qui est-ce ? » ?»« C'était ma façon de regagner la faveur de Borovitz. Cet homme s'appelle Harry Keoff. C'est mon beau-fils. » Il tient son don, quel qu'il soit, de sa mère. Elle, je l'ai tuée il y a 16 ans. Elle me fascinait et me rendait furieux. C'est à elle que vous pensiez quand vous avez dit que j'étais probablement un assassin. Il n'y a pas de probablement. Je l'ai tuée, sans aucun doute. Comme tous les ESPR, elle me faisait mal et son don me rendait fou. Assez parlé d'elle. Et pour ce... Keoff, c'est ce que j'essaie de vous dire. Avec vous deux, bien que vous soyez très puissants, j'ai dû néanmoins entrer dans la maison pour me rendre compte que vous étiez là. Mais avec Harry Keoff, il est différent. Son don est immense. Je le sais. Vous comprenez. Plus il est important, plus il me fait mal. C'est pourquoi je vais le tuer, non seulement pour Borovitz, mais également pour moi.
Cette histoire intéressait Dragozani au plus haut point. Il pouvait toujours régler son compte à Chouchkine plus tard, mais si Harry Keoff était aussi puissant qu'il l'avait dit, il aimerait bien en savoir davantage sur lui. De toute façon, s'il était un membre du service E anglais, cela reviendrait à faire d'une pierre deux coups. Comme son intérêt augmentait, il oublia de poser à Chouchkine la question importante. Keoff était-il un membre du service E anglais? C'était là une information que l'autre ne lâcherait pas de son plein gré.
« Je crois que nous allons bien nous entendre. » C'est toujours une bonne chose de trouver un arrangement avec de vieux amis. Quand exactement avez-vous l'intention de tuer cet homme? Et comment?
Chouchkine lui dit tout. Une fois que Chouchkine eut regagné la maison, Harry retourna à sa voiture et redescendit la colline dans la direction de Barney Rig. Arrivé en bas de la colline, il se gara de nouveau, à l'écart de la route, puis continua à pied et traversa un pré jusqu'à la rivière. Elle était complètement gelée, et l'endroit lui était un peu familier. Il était même encore moins depuis que des flocons de neige s'étaient mis à tomber d'un ciel de plomb. Le paysage revêtait petit à petit l'aspect brumeux, cotonneux d'un tableau hivernal. Harry entreprit de remonter la rivière. Le lieu de repos de sa mère se trouvait quelque part en amont, il n'aurait su dire où exactement. C'était notamment pour cette raison qu'il était revenu ici de nouveau, pour être sûr de savoir exactement où elle était, afin d'être en mesure de la trouver en toutes circonstances. Tout en marchant sur l'eau gelée, il tendit son esprit. « Maman, est-ce que tu m'entends ?»«
Harry, c'est toi ? Tu es si près. Harry, est-ce maintenant ?»«
Oui, maman. Mais ne me cause pas plus de problèmes que j'en ai déjà. J'ai besoin de ton aide, pas d'une discussion, ni de quoi que ce soit qui perturbe mon esprit. »«
Harry, mon fils, que puis-je te dire ? Comment pourrais-je cesser de m'inquiéter pour toi ? Je suis ta mère. »
Alors aide-moi. Ne dis rien et calme-toi. Je veux savoir si je peux te trouver les yeux fermés.
Les yeux fermés ? Je ne...
Maman, s'il te plaît. Elle se tut, mais son inquiétude le rongeait, résonnait dans sa tête comme les pas tourmentés d'un être cher. Il continua à marcher, ferma les yeux et se dirigea vers elle. Une centaine de mètres plus loin, il sut qu'il était arrivé. Il s'arrêta et ouvrit les yeux. Il se trouva dans la courbe de la berge en surplomb, sur l'épaisse couche de glace blanche qui constituait la pierre tombale de sa mère. Son repère et le sien également. À présent, il savait qu'il pourrait la trouver quand il le voudrait. « Je suis là, maman. » Il s'accroupit sur la glace, gratta avec ses doigts une fine couche de neige et regarda le lourd démon de pneus qu'il tenait dans sa main gantée. C'était la seconde raison pour laquelle il était venu. Alors qu'il commençait à marteler la glace, elle dit...
« Je comprends tout maintenant, Harry. Tu m'as menti. Tu m'as trompé. Tu penses qu'il y aura des problèmes, tout compte fait. »«
Pas du tout, maman. Je suis beaucoup plus fort maintenant, de bien des façons. Mais si jamais il y avait un problème, eh bien je serais stupide de ne pas envisager toutes les possibilités. » Ici, près de la berge, la glace était un peu plus épaisse. Harry commença à transpirer, mais bientôt il avait creusé un trou de presque un mètre de diamètre. Il retira du trou autant de fragments de glace qu'il le pouvait et se redressa. L'eau sombre tourbillonnait, et sous l'eau, sous le limon froid et la boue. Il avait terminé. Maintenant, Harry devait partir, et rapidement. Cela ne servait à rien de laisser la sueur se refroidir sur sa peau. Qui plus est, la neige tombait plus drue. Il commençait à faire sombre tandis que le crépuscule précoce de l'hiver arrivait en même temps que la neige. Il avait le temps de retourner à l'hôtel, prendre un brandy, et ensuite, ce serait le moment de sa confrontation avec Victor Chouchkine.
« Harry !»
l'appela sa mère une dernière fois, comme il repartait rapidement à travers le pré vers sa voiture.
« Harry, je t'aime. Bonne chance, mon fils. »
Une heure plus tard, Dragozadi et Batou étaient postés derrière un bosquet de jeunes conifères sur la berge de la rivière, à 20 ou 30 mètres en amont de la maison de Chouchkine. Ils étaient là depuis au moins une demi-heure, mais commençaient déjà à sentir le froid pénétrer leurs vêtements. Batou se frappait les bras contre sa poitrine et Dragozadi venait d'allumer une cigarette quand, enfin, la lanterne au-dessus de la porte qui donnait sur la cour de Chouchkine brilla brusquement. C'était son signal pour leur dire que tout était en place pour le meurtre. Deux silhouettes apparurent dans la pénombre. En fait, ce n'était pas encore la nuit, mais l'obscurité de l'hiver était presque celle de la nuit et malgré les étoiles et la lune qui se levaient, la visibilité serait médiocre. Les nuages, si denses seulement une heure auparavant, étaient partis à présent et la neige avait cessé de tomber. Mais à l'est, le ciel était noir et menaçant et le peu de vent qu'il y avait venait de cette direction. Il allait encore neiger cette nuit et fortement. Mais pour le moment, les étoiles éclairaient la scène de leur douce lumière froide et la lune changeait la rive de glace en un ruban argenté. Comme les silhouettes sorties de la maison se dirigeaient vers la rivière, Dragozani tira une dernière bouffée de sa cigarette entre ses mains en coupe, la jeta par terre et l'écrasa sous son talon. Batou cessa d'agiter ses bras. Tous deux se tinrent parfaitement immobiles et observèrent la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Arrivés au bord de la rivière, les deux silhouettes enlevèrent leurs pardessus et les posèrent sur la berge, puis s'agenouillèrent pour mettre leurs patins. Quelques mots furent échangés, mais à voix basse, et le vent soufflait dans la mauvaise direction. Quelques bribes seulement parvinrent jusqu'aux observateurs dissimulés. La voix de Chouchkine, sombre et très grave, sembla à Dragozani ouvertement agressive et vorace, comme le grognement d'un chien féroce. Et il se demanda pourquoi Keof n'était pas effrayé, ou du moins ne montrait aucune défiance. La voix du jeune homme était terne et uniforme, presque insouciante, tandis que les deux hommes s'élançaient sur la glace et commençaient à patiner. Tout d'abord, ils évoluèrent presque côte à côte,
Puis, la plus mince des deux silhouettes prit la tête. Se déplaçant avec une certaine adresse, elle prit rapidement de la vitesse et vint raser la berge en amont, se dirigeant vers l'endroit où les observateurs étaient tapis. Dragozani et Batou se baissèrent un peu plus, mais au dernier moment, avant d'arriver à leur hauteur, Geoff décrivit une grande boucle sur toute la largeur de la rivière et repartit dans la direction opposée. Derrière lui, Shushkin s'était presque arrêté comme Geoff s'élançait. Il était bien moins à l'aise sur la glace, semblait gauche et même maladroit en comparaison. Mais alors que Geoff revenait rapidement vers lui, il se retourna pour patiner dans la même direction, comme pour le gêner. Geoff se pencha et exécuta un slalom sous un angle tel que ses patins firent jaillir une couche de neige et de glace tandis qu'il frôlait son beau-père. Puis il se redressa de l'autre côté sous un angle similaire et reprit la même direction. À peine 30 cm plus loin, ses patins entaillèrent la glace au niveau du rebord du cercle destiné à le piéger, où la glace nouvellement formée maintenait tout juste en place le disque central. Shushkin le suivait de si près que lui aussi fut obligé de faire un large écart, en agitant éperdument les bras, pour éviter de tomber dans son propre piège.
« Faites attention, beau-père, j'ai failli vous heurter !»
Dragozani et Batou entendirent.
« Un jeune homme chanceux, jusque-là.
Croyez-vous ?» Dragozani n'était pas aussi certain que la chance y soit pour quelque chose. Shushkin avait été incapable de préciser quel était le don de Geoff. Et si c'était un télépathe ? Il aurait alors le pouvoir de capter les pensées perfides de son beau-père. Pour ma part, je pense que notre maître chanteur va avoir plus de difficultés qu'il ne le pensait. Shushkin s'était arrêté à présent et se tenait immobile sur la glace en une posture singulièrement voûtée. Il observait intensément Geoff, tandis que celui-ci continuait à patiner. Les épaules et la poitrine du russe se soulevaient et s'abaissaient spasmodiquement. Son corps tremblait, visiblement, comme s'il avait mal, ou était sous le coup d'une vive émotion.
« Reviens, Harry! Reviens! Tu es trop fort pour moi, j'en ai peur. Allons, tu peux décrire des cercles autour de moi. »
Geoff obéit et tourna plusieurs fois autour de la silhouette voûtée de son beau-père. À chaque passage, ses patins se rapprochaient un peu plus du désastre. Shushkin tendit les bras. Geoff saisit ses mains et tournoya autour de celui-ci en le faisant tourner sur son axe.
« Et maintenant, la coupe de glace !»
chuchota Max Batou à Dragozani. Shushkin s'arrêta brusquement de tourner et donna l'impression de trébucher vers Geoff. Celui-ci se contorsionna pour l'éviter. Il se tenait toujours par les mains. L'un des patins du jeune homme traversa une fine couche de neige poudreuse et s'enfonça dans le creux du canal découpé par Shushkin. Il fut stoppé brusquement et seule la prise de Shushkin sur ses poignets l'empêcha de tomber sur le disque de glace instable. À ce moment-là, Shushkin éclata de rire, un rire de dément, une sorte d'aboiement rauque, et repoussa Geoff pour l'envoyer à la mort. Mais le jeune homme tenait solidement les manches de la veste de Shushkin, et alors que ce dernier le poussait, il le tira pour l'entraîner avec lui. Shushkin perdit l'équilibre et fut projeté en avant. Geoff se pencha sur le côté et le fit passer par-dessus sa hanche. Mais quand il lâcha Shushkin, le russe s'agrippait toujours à lui. Poussant un cri d'indignation, il tomba à l'intérieur de son cercle, entraînant Geoff à sa suite. Les deux hommes enchevêtrés heurtèrent violemment la glace, qui bougea immédiatement sous eux. Le cercle émit des craquements sur son rebord, semblables à de petites détonations. De logiques là sous forme de jets noirs comme le disque s'inclinait et se brisait en deux morceaux. Shushkin poussa un cri horrifié, un cri étrange, démentiel, comme celui d'un animal blessé, tandis que le demi-cercle de glace qui les supportait, lui et Geoff, se dressait à la verticale et les faisait basculer dans l'eau glaciale qui gargouillait.
« Vite, Max ! On ne peut pas se permettre de les perdre tous les deux !»
s'écria Dragozani. Il s'élança de derrière l'abri des conifères, suivi de près par Batou.
« Qui préférez-vous sauver ?»
demanda le Mongol d'une voix rauque comme il sautait sur la glace.
« Geoff, si c'est possible. Il en sait plus sur l'organisation britannique que Shushkin, et il a un don, quel qu'il puisse être. »
Alors même qu'il prononçait ces mots, une idée incroyable lui vint, une idée qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. S'il avait été capable d'apprendre la nécromancie auprès d'une chose morte-vivante, et grâce à elle, de voler des pensées et les secrets des morts, ne pouvait-il pas également leur voler leurs dons ? Au château Bronitzi, les agents étaient tous des alliés, travaillant dans le même camp, poursuivant le même objectif. Mais ici, en Angleterre, les Espers étaient des ennemis. Pourquoi ne pas voler le don jusque-là inconnu de Geoff et l'utiliser à ses propres fins ? Depuis le trou où des morceaux de glace se soulevaient dans une eau sombre, Dragozani et Batou perçurent des grognements et des halètements tandis qu'ils arrivaient. Mais alors qu'ils s'approchaient plus prudemment du bord lui-même, des bruits cessèrent et seuls les accueillirent les gargouillis et le claquement de l'eau qui s'agitait contre la glace. Un instant, une main se tendit hors de l'eau et essaya de s'agripper au rebord, mais avant qu'ils aient le temps de la saisir, la main disparut entraînée sous l'eau. Dragozani s'écria.
« Par là. Suivons le cours de la rivière. »
« Vous pensez qu'il y a une chance ?»
Manifestement, Batou n'en croyait rien.
Une chance infime.
Ils coururent sur la glace du mieux qu'ils le pouvaient sous le regard de la lune silencieuse. Sous la glace, ballottée et retournée par le courant, Arikiov parvint néanmoins à retirer sa veste et la lâcha. Sous sa chemise, il portait une combinaison en caoutchouc isolante. Néanmoins, le froid était atroce. La température glaciale allait sûrement tuer Chouchkine, qui, lui, n'avait aucune protection. Harry commença à nager, gardait sa tête retournée de côté, le visage contre la glace, et trouva des endroits où de l'air froid était pris au piège en de petites poches. Il nageait vers sa mère, suivait le flot de ses pensées anxieuses, tout comme il les avait suivies infailliblement 2 heures auparavant. Si ce n'est qu'à ce moment-là, il pouvait respirer à son aise, bien au chaud. La panique le gagna momentanément, mais il la chassa de son esprit. Sa mère était là-bas, dans cette direction. Il commença à nager plus vigoureusement, mais quelque chose lui saisit les pieds. Les jambes, assura sa prise sur lui et s'agrippa à son pantalon. Chouchkine. La rivière les entraînait tous les deux et les ballottait comme des allumettes dans un égout, les collant l'un à l'autre du fait de l'attraction terrestre. Harry nagea encore plus frénétiquement avec ses bras, avec une jambe. Il nagea comme jamais auparavant, ses poumons menaçaient d'éclater, son cœur était semblable à un énorme gong qui se dilatait dans sa poitrine. Et Chouchkine continuait à se hisser le long de son corps, s'agrippait, ses mains semblables aux pinces d'un énorme crabe. Il empoignait Harry comme pour le mettre en pièces. C'était fini. Il ne pouvait plus nager. L'eau était comme le sang noir d'un extraterrestre gigantesque. Harry, un corps étranger, injecté dans ses veines, et Chouchkine, un anticorps voué à sa destruction.
« Maman ! Maman, au secours !» cria Harry avec son esprit, comme il était finalement obligé de respirer.
Mais il avala seulement de l'eau glacée qui s'engouffra dans ses mâchoires distendues et ses narines.
« Harry !»
répondit-elle aussitôt. Sa voix qui résonnait dans la tête de Harry était forte et semblait toute proche. Il tendit ses jambes, frappa Chouchkine avec ses pieds, se projeta vers le haut en s'aidant de son dos et de sa tête, et se cogna violemment contre la couche de glace qui, immédiatement, miséricordieusement, se brisa en de petits éclats tandis que le haut de son corps émergeait à l'air libre. Soudain, l'eau fut calme, et ses pieds s'appuyèrent sur un fond boueux, 1,50 m plus bas. Avant même que ses yeux aient retrouvé leur acuité et que ses sens meurtris aient cessé de tournoyer, Harry comprit qu'il avait réussi. Il rassembla ses dernières forces, tendit les mains, saisit des racines rugueuses qui avançaient depuis la berge en surplomb et entreprit de se les hisser lentement sur la terre ferme. Près de lui, l'eau tourbillonna et gargouilla comme sous l'effet d'une agitation cachée. Harry se retourna à moitié et la terreur lui fit retrousser les lèvres sur ses dents, tandis que le visage de démon de Chouchkine surgissait à côté de lui, suffoquant et saisi de haut le cœur. Le démon l'aperçut, cracha de l'eau, et un cri de rage inarticulé sur le visage lui saisit la gorge avec ses mains qui ressemblaient à des grappins d'acier. Harry lui donna un coup de genou dans l'aine, lui brisant les os, mais Chouchkine ne lâcha pas prise. Il tira Harry en arrière, inexorablement, en lui bavant sur le visage. Durant un long moment, Harry crut qu'il avait l'intention de le mordre, de le déchiqueter comme un chien enragé. Il se débattit, frappa à plusieurs reprises le visage horrible de Chouchkine avec ses poings serrés, enfin. Le démon allait l'emporter. Harry était sur le point de succomber. Il voulut saisir de nouveau les racines rugueuses sur la berge, mais les mains de Chouchkine se resserraient autour de sa gorge, le privaient d'air, de la vie elle-même.
« Maman, tu avais raison, maman. J'aurais dû t'écouter. Je suis désolé. Non. Non !»
répondit sa mère qui refusait sa défaite. Chouchkine l'avait tué, mais elle ne le laisserait pas tuer son fils. Et de nouveau l'eau boueuse gargouilla et s'agita, mais elle était encore plus noire à présent. Dragozani s'arrêta dans une glissade à moins d'une quinzaine de mètres de là, agrippa Batou et le fit s'immobiliser. Haletant, leur souffle formant dans l'air de fragiles nuages de couleur de neige, ils regardèrent le spectacle qui se déroulait devant eux et n'en crurent pas leurs yeux. 2 hommes avaient disparu sous la glace, avaient été emportés par le courant jusqu'à ce trou d'eau, et un instant plus tôt, 2 silhouettes luttaient et se frappaient dans l'eau calme en contrebas de la berge. Mais à présent, il n'y avait plus 2, mais 3 silhouettes là-bas, et la 3e était l'apparition la plus terrifiante que Dragozani ait jamais connue, ou imaginée, ou vue dans ses cauchemars les plus sombres. Ce n'était pas vivant.
Et pourtant, cette silhouette avait la mobilité de la vie, la volonté de la vie. Et elle était déterminée. Elle s'accrocha à Chouchkine, l'enveloppa, passa ses bras de boue et d'eau autour de lui et appuya son crâne d'algues et de cheveux maculés de terre contre le sien. Elle n'avait pas d'yeux, mais une lueur putride brillait dans ses orbites vides qui semblaient voir. Jusque-là, Chouchkine avait hurlé, produit des sons inarticulés, ri comme un démon. Mais à cet instant précis, il devint fou, littéralement. Il poussait des cris perçants tandis qu'il luttait avec cette chose horrible, des glapissements de démons particulièrement stridents tels que Dragozani et Batou n'auraient jamais pensé en entendre un jour. Et à la fin, juste avant que l'abomination l'entraîne sous l'eau, il prononça des mots que les deux observateurs pétrifiés furent à même de comprendre.
« Pas toi ! Non, mon Dieu, pas toi ! Pas toi !»
Puis il disparut de la surface et la chose faite d'os, de boue, d'algues et de mort disparut avec lui. Harry Keough, resté seul, se hissa péniblement sur la berge. Batou se serait peut-être élancé sans réfléchir, rempli d'horreur, mais Dragozani le retenait toujours par le bras. Il la grippa fermement, comme pour ne pas tomber. Batou commença à se ramasser sur lui-même. C'était la posture qu'il utilisait pour tuer, mais Dragozani l'en empêcha également.
« Non, Max. »
Nous ne devons pas nous en prendre à lui. Nous avons vu une partie de ce qu'il est capable de faire, mais quels autres dons possède-t-il ? Batou comprit. Il se détendit et se redressa. Sur la berge au-dessus d'eux, Harry Keough se rendit compte de leur présence pour la première fois. Il tourna la tête dans leur direction, les aperçut et les regarda fixement. Ses yeux les scrutaient intensément. Et il donna l'impression de vouloir parler, mais il ne dit rien. Durant de longues minutes, tous les trois se contentèrent de se regarder. Puis Keough détourna son regard vers l'étendue d'eau noire. « Merci, maman, » dit-il simplement. Dragozani et Batou l'observèrent tandis qu'ils s'en retournaient, vacillants et trébuchants, puis se mettaient à courir à en perdre haleine vers la maison de Chouchkine. Ils le regardèrent partir et n'essayèrent pas de le suivre. Pas maintenant. Quand il eut disparu, Batou dit d'une voix sifflante.
« Mais cette chose, camarade Dragozani, ce n'était pas, ça ne pouvait pas être humain. » Alors qu'est-ce que c'était ?
Dragozani secoua la tête. Il pensait connaître la réponse, mais ne voulait pas trop s'engager pour le moment.
Je n'en suis pas sûr. Cependant, cela a été humain autrefois. Une chose est certaine, quand Keough a eu besoin d'aide, cette créature est venue vers lui. C'est son don, Max. Les morts répondent à son appel.
Il se tourna vers son coéquipier. Ses yeux étaient encore plus sombres dans ses orbites enfoncées.
Ils répondent à son appel, Max. Et les morts sont infiniment plus nombreux que les vivants.